France Musique.
Bonsoir Lionel, eh bien je vous souhaite un bon week-end. On vous retrouve en direct de l'hôtel Bedford à Paris, et ceci dès lundi.
This is an electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète.
Bruno Le Thor.
Le violoncelle de mon enfance. Pour le magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
Nous recevrons dans ce tapage nocturne le compositeur et pianiste Jean-Michel Bernard. Il viendra nous parler de son nouvel opus discographique consacré au maître argentin de la musique de film, Lalo Schifrin. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec Very Good Trip, le rock au pays des rêves, fruit des chroniques de l'émission éponyme de Mishka Assayas sur France Inter, consacrée à l'épopée du rock psychédélique. Des Bee Gees à Genesis, de Radiohead à Pink Floyd ou Brigitte Fontaine, l'auteur décrit et commente cette veine homogène, occasion de nous entretenir avec Mishka Assayas. Bonsoir Mishka Assayas.
Bonsoir Bruno.
Alors vient de paraître Very Good Trip, le rock du pays des rêves, et bien entendu vous y parlez beaucoup de radio.
Oui, bah c'est une expérience somme toute récente pour moi. C'est pas mon métier de base, vous le savez sans doute. J'ai toujours écrit et on est venu me chercher. Alors c'est pas tout à fait juste parce que dans les années 90, j'étais chroniqueur chez Bernard Lenoir sur France Inter. Ça a duré 3 ans.
Vous en parlez beaucoup d'ailleurs de Bernard Lenoir.
Bah, c'est un monument... Trésor national vivant, c'est lui qui a fait entrer le rock indépendant à la radio, un de ceux en tout cas qui l'ont incarné, et c'est lui qui m'a permis de m'asseoir devant un micro pour la première fois de ma vie, ce que je redoutais beaucoup, mais c'est tout autre chose de lire un papier à l'antenne et de produire une émission en étant à la fois son auteur, son metteur en scène, c'est un autre monde quoi.
Finalement, quand on lit votre ouvrage, on a l'impression que c'est presque une sorte de dictionnaire amoureux oui. Du rock psychédélique. Comment vous pourriez définir ce genre, cette école, ce mouvement ?
Il est par nature indéfinissable, parce que, comme vous le savez, psychédélique est un terme qui renvoie aux visions induites par les psychotropes. Donc on a trouvé cette façon de décrire une musique qui est née sur la côte ouest des États-Unis vers le milieu des années 60. Une musique qui était jouée, interprétée par des musiciens qui usaient et abusaient de certaines substances, comme le LSD. Bon, c'est pas mon cas, mais c'est une musique qui a beaucoup compté pour moi parce que au fond, c'est la première musique à laquelle j'ai été exposé à l'âge où on commence à vouloir un peu, si j'ose dire, choisir son camp. Et j'avais 9, 10, 11 ans quand j'ai découvert les albums, les chansons psychédéliques des Beatles, des Stones et tous ces groupes, Pink Floyd, etc. Donc ça m'a évidemment tapé sur la tête. Et je crois que c'est très éloigné finalement de l'image qu'on se fait du rock'n'roll, qui est au fond une image un peu en noir et blanc, un peu stricte, au fond conventionnel. Le but de la musique psychédélique, enfin s'il y en avait un, c'était une quête. C'est-à-dire qu'on cherchait à élargir les limites du territoire, on cherchait à mélanger des choses qui n'auraient peut-être pas dû aller ensemble, le raga indien, la musique électronique, une certaine improvisation propre au free jazz,
des formes, les durées,
des réminiscences de musique baroque, des chorales. C'est comme ça que j'ai découvert la musique et je m'aperçois qu'au fond que j'ai été très chanceux d'avoir une musique qui m'a rendu l'esprit aussi libre.
Très souvent c'est une musique d'expérimentation d'ailleurs,
oui.
On le dit.
Oui, il est certain qu'il y a toute une part du rock psychédélique qui est liée à ce qu'on appelle le rock garage. Donc effectivement, le rock and roll, le premier punk rock, celui que inventait dans des garages des gamins très inexpérimentés. Mais il y a un psychédélisme qui est beaucoup plus savant, qui est celui de Pink Floyd, de King Crimson, de The Soft Machine. D'ailleurs, qui est très lié à l'avant-garde artistique, qui est courant surréaliste, à la poésie de l'absurde, tout ça, enfin c'est aux rêveries cosmiques, à la science-fiction, enfin ça embrasse quand même beaucoup de disciplines.
Alors c'est pas seulement le langage, parce qu'il y a également une technologie qui suit.
Oui, oui. Bah, il se trouve que cette musique, en fait, alors bon, je suis pas le mieux placé pour en parler, parce que je suis pas du tout ni musicologue, ni technicien, mais il est certain qu'il y a eu des inventions qui ont été concomitantes, en particulier les premiers synthétiseurs qu'on pouvait assembler soi-même, les Moog, que des musiciens comme Keith Emerson commandaient, ils assemblaient ça en kit, un peu comme des étagères IKEA, sauf que c'était gros comme des armoires normandes, avec plein de fils et plein de trucs compliqués. Enfin bon, moi j'y connais rien, mais c'était certainement. Vous savez que Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles était enregistré sur une console 4 pistes. Bon, entre Sgt Pepper's qui remonte à printemps 67, année de période de la publication du disque, et Abbey Road, il y a quoi, 2 ans qui séparent, et on a les consoles incroyablement sophistiqués, toutes sortes d'outils en studio dont on n'avait pas idée encore quelques années avant.
Thank you.
Rapage nocturne. Bruno Le Thor. France Musique.
Il y a des descendants ?
Ah, il y a non seulement des descendants, mais je dirais il y a tout un... Une école, c'est pas le mot, mais enfin, je dirais c'est tout un continent de musiciens qui continuent à non seulement s'inspirer de ça, mais à créer de nouvelles formes, à faire de nouveaux assemblages, et qui sont fidèles à cet esprit d'invention qui est quand même très, très lié à la rêverie. Très lié à la rêverie cosmique, la nature. Enfin, au fond, c'est une survivance d'un certain courant romantique né en Europe, voilà, à la fin du XVIIIe, et qui s'est greffé étrangement à ces rythmes et sonorités apparus, voilà, outre-Atlantique, il y a quand même 70, 80 ans, je sais pas.
Ah, c'est vrai qu'il y a des personnages hauts en couleur, je pense à Frank Zappa notamment, qui est même allé jusqu'à la politique. On sait qu'il a voulu à un moment donné se présenter à l'élection présidentielle.
Alors je pense pas que Frank Zappa se soit revendiqué du rock psychédélique. Hein. D'ailleurs, il méprisait beaucoup une grande part du rock. C'était tout de même un compositeur tout à fait, on va dire, sérieux, entre guillemets, même si son esprit était loufoque. Après, le rock psychédélique était pas forcément lié à la politique et à l'engagement. Je dirais que ça, c'est survenu un peu après, mais dans les années vraiment où le psychédélisme a éclos, prenons l'exemple de Pink Floyd, que tout le monde connaît, c'est un groupe qui n'était pas perçu comme un groupe engagé politiquement. Disons qu'il participait par ce qu'on percevait de son lien au psychotrope. On imaginait que tous les musiciens se droguaient à l'époque, certaines libertés. Bon, tout ça était politique, bien sûr, parce que les jeunes qui écoutaient Pink Floyd étaient politisés. Mais je dirais que ce qu'il y a de plus politique dans Pink Floyd, c'est plutôt la période The Wall, qui est fin des années 70. Ce que vous voulez dire, ce qui est vrai, c'est que c'était, il y a certains hippies très politisés qui sont peut-être apparus à la faveur de ce mouvement-là, mais le psychédélisme en lui-même n'était pas politique, enfin à ma connaissance.
Perfect.
N'est pas anglo-saxon, puisqu'on le retrouve également en France.
Ah non, loin de là. Ah non, 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 il a été mondial.
En Belgique.
Évidemment, en Allemagne, en Italie, vous avez des groupes comme les Ormes, ou je sais pas, il y a Franco Battiato qui étaient des compositeurs de musique très formés. En fait, c'était plutôt ce qu'on a appelé à ce moment-là la musique progressive, qui était un dérivé du psychédélisme, parce que la musique progressive, en effet, a développé une tendance du psychédélisme qui était de décloisonner, de sortir du format de la chanson, de faire des suites un peu à l'image de la musique classique, du jazz, etc. Il y avait ce qu'on appelait les concept albums. C'est-à-dire que c'était des disques qui présentaient une certaine vision, voilà. Mais il y a aussi du rock psychédélique d'Extrême-Orient. Ça a été un mouvement mondial. Vous savez, c'est un peu comme en astronomie. On se met à avoir des instruments de plus en plus perfectionnés pour observer les constellations, et plus les résultats sont précis et plus on en sait, moins on comprend. C'est un peu ça, si vous voulez.
Alors ça s'est arrêté quand, finalement, ce mouvement ?
Mais jamais ! Il est passé de mode à un certain moment, mais il est toujours revenu. Vous savez, même on disait que le punk, pour ceux qui vraiment s'identifiaient à ce mouvement, que ça allait balayer le passé, c'était une nouvelle année zéro, c'était la terre brûlée, toutes ces vieilles lunes allaient disparaître. En réalité, on a vu très vite des réminiscences de musique psychédélique chez des groupes comme The Cure, Suzy and the Banshees. Tout ce qu'on appelle le post-punk était très marqué par le psychédélisme. Je pense à un groupe qui a eu une grosse influence, en particulier sur Arcade Fire, c'était Echo and the Bunnymen. C'était vraiment très lié au rock psychédélique. Donc en fait, il y avait même un groupe qui s'appelait Psychedelic Furs, qui était un groupe post-punk. Vous voyez, donc la contradiction du truc. Et en fait, c'était cette idée que il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on détruit pour exister, ce qui était le cas des révolutionnaires du punk, et puis il y a un autre moment où on reconstruit. Et pour reconstruire, comme par hasard, eh bien, on s'est appuyé sur les palais baroques du psychédélisme, qui finalement, on beau être passé de mode régulièrement, les gens continuent à les fréquenter.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre ouvrage.
C'est très gentil, merci Bruno.
Et à bientôt.
À bientôt. Stand up.
France Musique, Tapage Nocturne, Bruno Lector.
Very Good Trip, le rock au pays des rêves, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Le Mot et le Reste. Si le compositeur argentin Lalo Schifrin a gravé son nom au panthéon des compositeurs de musique de films les plus populaires, en écrivant les musiques de Bullitt, d'Amityville ou d'Opération Dragon, sans oublier les séries comme Mission Impossible ou Manix, au-delà de ses étoiles, son itinéraire est des plus passionnants. Pianiste de Dizzy Gillespie, arrangeur de Stan Getz, Count Basie ou Jimmy Smith, chef d'orchestre, il dirigea notamment la création du fameux concerto pour bandoneon et orchestre d'Astor Piazzolla. Les facettes de ce musicien sont multiples et révèlent un talent unique. C'est un peu pour rendre hommage à cette personnalité qui aura marqué de son empreinte la culture pop depuis plus de 50 ans que Jean-Michel Bernard a revisité avec passion l'œuvre de Lalo Schifrin en lui donnant un nouvel éclairage personnel. Occasion pour Tapage Nocturne de revenir sur l'extraordinaire parcours du musicien argentin. Michel Bernard.
Bonsoir Bruno.
Alors vient de paraître un opus discographique consacré à Lalo Schifrin. Qu'est-ce que vous aimez chez ce compositeur ?
J'aime tout. C'est simple, j'aime tout. Il est capable de tout faire et ce qu'il aime, c'est ce qui a caractérisé sa carrière. Le jazz d'une part et puis naturellement toujours la musique classique, la musique contemporaine depuis ses études à Paris naturellement avec Olivier Messiaen entre autres.
Il parle français d'ailleurs.
Je veux dire son séjour à Paris pendant quelques années l'a marqué à jamais en fait. L'artiste dont je me sens depuis très longtemps d'ailleurs le plus proche, je pense sans doute depuis, sans le savoir, lorsque j'écoutais le générique de Manix. Voilà, alors ça c'était pour moi, c'était fantastique.
Thème, celui de Mission Impossible, qui est certainement le thème à 5 actes le plus connu au monde avec Tech 5.
Oui,
pourriez-vous nous parler en deux mots de la construction de ce thème ?
C'est assez paradoxal parce que bon, tout le monde connaît le thème principal, mais ce qui est très intéressant, c'est un petit peu comme John Barry lorsqu'il faisait par exemple le générique de Amicalement Vôtre. Ce qui est intéressant, c'est l'intérieur, c'est-à-dire les voix secondaires et tout ça. Et c'est vrai que lorsqu'on l'étudie un petit peu en détail, on s'aperçoit qu'il y a non seulement le thème qui est imparable, mais tout ce qui est à l'intérieur fait partie intégrante du morceau. Le rythme, et d'ailleurs Lalo me l'expliquait, il avait eu l'idée d'un rythme qui était d'origine espagnole, dont je me souviens plus le nom, mais qui était vraiment tout à fait proche de la rythmique de Mission Impossible. Et puis, naturellement, lorsque on lui a proposé de faire la musique de la série, le producteur lui a dit « il faut que tu me trouves un truc pour que la ménagère, lorsqu'elle est dans sa cuisine, accourt à la télé lorsqu'elle entend les premières secondes ». Et donc voilà, il a fait Mission Impossible.
voyez une filiation entre tous ces thèmes, Bullitt, Luc la main froide, Inspecteur Harry?
De toute façon, je pense que c'est la marque des très grands musiciens, c'est d'une part d'avoir la technique, naturellement, ce qui est la base, et surtout d'avoir une marque, une patte, comme on dit, et la Lochifrine, déjà, il utilise beaucoup les frottements, notamment dans beaucoup de musique, et en fait, qui sont assez liés à son époque, d'avoir vécu et d'avoir travaillé la musique contemporaine, notamment, et d'avoir étudié avec Olivier Messiaen. Et je pense qu'il a mélangé tout ça en ajoutant évidemment sa culture d'Amérique du Sud, avec les claves, naturellement, bien sûr. Mais il a mélangé tout ça, et c'était évidemment très nouveau. Il a créé ce son nouveau Hollywood qui a été révolutionnaire pour l'époque.
Quand on écoute les musiques incidentales qu'il a composées pour Mission Impossible, je me souviens de ce premier disque rouge qui était sorti.
Oui,
on voit toute cette richesse qu'il y a, toutes ces variations qui existent autour de ce thème.
Et c'est drôle parce que John Burlingame, qui est le journaliste aux États-Unis spécialisé dans la musique de film, un petit peu au même titre que notre ami Stéphane Le Rouge en France, John m'a donné il a sorti en fait un coffret de toutes les musiques de Mission Impossible, mais toutes les musiques internes, c'est-à-dire ce qu'on n'entend pas réellement, finalement, qui parsèment chaque épisode. Mais c'est carrément fantastique. Lorsqu'on écoute ça en détail, mais il y a des trésors là-dedans absolument invraisemblables.
Que reste-t-il de l'Argentine dans la musique de Lalo Schifrin?
Toujours, enfin, il dit qu'il n'aime pas le tango, mais enfin bon, il a quand même fait la musique du film de Carlos Saura. Donc,
et puis dirigé le concerto d'Astor Piazzolla.
Voilà, exactement. Donc en fait, c'est toujours là. Et puis bon, il a fait ce tango, le tango del Atardecer. Moi, j'appelle ça le tango d'Alcacelzer. Mais voilà, qui est absolument magnifique. Mais ça fait de toute façon partie intégrante de sa culture. En plus, il vient d'une famille de musiciens. Son père était... violon solo donc à l'opéra de Buenos Aires. Et il travaillait aussi avec le père de Daniel Barenboim, si je ne m'abuse. Il est très influencé également par l'opéra. Il a beaucoup été écouté d'opéra lorsqu'il était très jeune à Buenos Aires. Tout ça fait partie de sa culture. Donc quand il a fait aussi le grand spectacle Cantas Aztecas avec Ruggero Ridmondi, on retrouve aussi tout ça. Et finalement, il a fait un espèce de mélange de toutes ces cultures avec un côté aussi un petit peu commercial, je dirais, quelque part, parce que je pense qu'il avait aussi ce sens-là. Il avait ce talent-là également, qui est pas évident, c'est de pouvoir aussi répondre à la demande d'un cahier des charges lorsque vous travaillez pour le cinéma, ce qui est très particulier, comme vous le savez. Donc, il a été capable de faire tout ça. Et je pense que je le rapproche assez... De ce côté-là, de Ray Charles, parce que tous les deux étaient évidemment de très fortes personnalités, mais dotés d'une très grande intelligence, en fait. Et ils étaient capables aussi de pouvoir répondre aussi à la demande lorsqu'ils avaient... Enfin, bon, Ray, c'est un peu différent, mais Lalo, qui travaillait beaucoup pour des producteurs, des réalisateurs, devait avoir fort affaire régulièrement.
Thank you.
Alors vous êtes un musicien complet, à la fois le jazz, à la fois la musique de film. Votre travail pour l'image, comment vous le percevez aujourd'hui ?
J'ai commencé à faire, comme beaucoup de jeunes compositeurs, des courts-métrages, naturellement. Ils ont trouvé que j'ai toujours d'ailleurs un ami, Jean-Louis Bonpoint, avec qui j'étais à l'école. Et lorsqu'on était en seconde, première, il faisait des petits films comme ça en pâte à modeler animée. Et il m'a dit, tiens, mais tu ne voudrais pas. À l'époque, moi, j'étais au conservatoire et je faisais déjà du jazz depuis des années, parce que j'ai toujours aimé le jazz. Ça a vraiment été la musique qui m'a profondément marqué par son côté plus harmonique, je dirais, que rythmique, d'ailleurs. Donc, en fait, j'ai commencé avec Jean-Louis, et puis, petit à petit, après, j'ai fait énormément de choses différentes, et puis, je faisais des petits bouts de films par-ci, par-là, un petit bout de Claude Chabrol, travaillé un jour avec Ennio Morricone, et puis, voilà, bon. Et puis, un beau jour, donc, j'ai commencé à travailler avec Michel Gondry, et c'est ce qui a un petit peu lancé ma carrière dans le cinéma avec La Science des Rêves.
Le travail avec Michel Gondry reposait sur quel langage ?
Michel est musicien, donc il sait de quoi il parle, et en même temps il a une personnalité assez arrêtée là-dessus, mais dans ce film-là, en tout cas, il m'a laissé une grande liberté, ce qui fait que j'étais très heureux de voir que, d'une part, le film, même s'il n'a pas été un blockbuster, est devenu un film un peu culte. Et finalement, la musique est très particulière et me représente tout à fait. C'était pas comme si j'avais mis ma panoplie j'avais mis ma personnalité de côté et j'avais fait un film à la commande. Là, c'était vraiment, ça me représentait bien l'histoire du personnage. Donc, finalement, ce qui compte aujourd'hui, je pense, c'est surtout d'avoir une personnalité. Je veux dire, si vous allez voir quelqu'un pour chercher du travail, pour composer une musique de film, et que vous dites « je peux tout faire », là, vous êtes sûr que y a plein de gens qui peuvent tout faire. Ça ne veut pas dire qu'ils le font bien, d'ailleurs, mais en fait, il faut avoir, enfin, si possible, je veux dire, ça, la personnalité, ça se travaille pas non plus. On l'a ou on l'a pas. Bon, après, on peut la développer, naturellement. Thank you.
Vous dites, la musique dans une comédie doit avoir quelque chose de sérieux.
C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Une musique de comédie, si vous ne voulez pas utiliser les sempiternelles... je me souviens un jour, il y avait un compositeur très connu qui me dit « Ah, tu fais ce film-là, donc tu vas m'ensigner », me dit-il. Je dis « M'ensigner ? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Bah oui, tu vas faire genre Henri Mancini, voilà, puisque Henri Mancini est quand même une référence absolue dans le domaine de la comédie, pas uniquement avec La Panthère Rose, mais enfin, bon, il faut dire qu'il en a fait beaucoup. Et donc, je pense que la difficulté, c'est ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'arrache souvent les cheveux en écoutant notamment les musiques de téléfilms, lorsqu'on écoute des pids avec du marimba, par exemple, où là, c'est forcément, c'est ce qu'on appelle un peu du Mickey Mousing. Donc, la comédie pour moi est l'art ultime, parce qu'un bon drame, alors là c'est l'autoroute, je vais vous dire, faire une musique de drame, alors là, puis c'est très payant, ça on ramène souvent plus de récompenses avec les drames, mais la comédie, alors là, vous pouvez y aller, hein. Il faut quand même s'employer pour retrouver une personnalité, et moi je suis assez mélodiste, donc aujourd'hui, depuis quelques années, on est un peu dans le ventre mou de la musique de film actuellement, puisque la mélodie est fuie comme un peu les vampires avec les gousses d'ail et les crucifix, vous voyez, c'est-à-dire dès qu'il y a quatre notes qui commencent à ressembler un tant soit peu une mélodie, ça fait fuir beaucoup les réalisateurs qui la craignent, mais on essaie de les rassurer. Je pense qu'en fait, et là, c'est un vaste sujet sur lequel on pourrait parler longtemps, mais je pense qu'il faut vraiment éduquer dès les écoles de cinéma les réalisateurs, les directeurs de production, les producteurs à leur enseigner et les sensibiliser, je dirais, pas leur apprendre la musique, mais les sensibiliser à l'art de la musique de film et que c'est quelque chose qui est un atout lorsqu'on sait l'utiliser. Mais la musique n'a pas besoin d'images. Nous, notre force, c'est que bon, voilà, on peut jouer un morceau de piano et on voyage. Mais le cinéma, il a besoin d'avoir des images et toute une chose derrière. Donc, si on amène notre langage sur le langage du cinéma, c'est là que les embrouilles commencent quelquefois. Donc, faut avoir un peu d'expérience, c'est quand même mieux. je suis en train de terminer. Bah justement, une comédie, tiens, comme vous en parliez.
Avec des pides et des marimbas.
Non, il n'y a pas des pides et des marimbas. Il n'y a pas de marimbas. Si, il y a un peu de pides quand même. Ah si, c'est vrai, il y a quelques pides, ma foi. Mais c'est des pides en contre-temps, donc ça va. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Hein, mais en fait, c'est une comédie avec une réalisatrice avec qui je travaille très souvent, que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Annie Jaffery, qui est la créatrice de... à la base de Fais pas ci, fais pas ça sur France 2. Et donc, c'est le troisième long métrage qu'on fait ensemble. On a fait Qui a envie d'être aimé il y a quelques années. Ange et Gabriel, il y a 2 ans et demi avec Patrick Bruel et Isabelle Carré. Et le prochain s'appelle Ni une ni deux, donc un film avec Mathilde Seigné, où elle joue deux personnages, deux sœurs jumelles. Et c'est très réussi, vraiment. Et Mathilde Seigné est absolument excellente dans ce film-là.
Merci beaucoup, en tout cas Jean-Michel Bernard, de nous rendre visite au studio 107 de la Maison de la Radio.
C'était un plaisir, merci d'avoir accueilli.
Et à bientôt.
À bientôt.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Cédric Chatelus et Mathieu Leroux, attaché d'émission Soisic Noël, réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de rejoindre Anne Montaron, Création Mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.